Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La justice britannique examine la demande d'extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks y risque jusqu'à 175 ans de prison, vous l'entendrez dans un instant. Dans ce journal aussi, présentation d'un autre procès, celui du couple Fillon sur les soupçons d'emploi fictif de Pénélope Fillon. Cela avait conduit à la chute du candidat de la droite à la présidentielle il y a 3 ans. Et puis Donald Trump est en Inde en ce moment, accueilli comme un roi par le Premier ministre Narendra Modi. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Le procès de Julian Assange débute donc aujourd'hui. Le fondateur de Wikileaks, toujours détenu à Londres, risque 175 ans de prison aux États-Unis. Et la justice britannique doit décider à partir d'aujourd'hui s'il est ou non légal de l'extrader. Cela commence donc ce lundi, Antoine Gignot.
C'est la première fois depuis 10 mois que Julian Assange va sortir de la prison de Belmarsh. Et c'est un argument que vont utiliser ses avocats. Placé à l'isolement et en détention préventive, le fondateur de Wikileaks n'a pas eu de véritable possibilité de préparer son procès, explique Joseph Farrell, représentant de l'organisation à Londres.
D'abord, il n'est pas bien psychologiquement et physiquement. Et il n'a eu qu'un accès limité à ses avocats. Pendant longtemps, il n'a pas eu accès à un ordinateur. Et puis, est-ce que vous pouvez vraiment vous préparer à l'idée de passer 175 ans en prison?
175 ans de prison, c'est la peine maximum que risque Julian Assange s'il est extradé vers les États-Unis, visé par 18 chefs d'accusation pour avoir révélé en 2010 et 2011 des informations classées secret défense, espionnage aux yeux de l'administration américaine, simple travail de journaliste pour le rédacteur en chef de Wikileaks, Christine Raffenson.
L'atmosphère autour de Julian est tellement toxique dans ce pays que je suis inquiet. Mais il faut qu'on soit optimiste et qu'on se batte à cause de l'importance de ce procès, pas seulement pour Julian, mais pour le journalisme en général, parce que ça va créer un précédent.
L'audience va durer jusqu'à la fin de la semaine. Il y aura ensuite une suspension de 3 mois, d'autres témoignages et une décision de justice probablement à l'automne.
Là, le procès doit durer un peu moins de 3 semaines. Au tribunal de Paris aujourd'hui débute le procès du couple Fillon. Comparaîtront François Fillon, sa femme Pénélope Fillon et l'ancien suppléant Marc Joulot. Il y a 3 ans, l'affaire des soupçons d'emploi fictif avait pulvérisé la campagne présidentielle du candidat Les Républicains. Retour ce matin sur la spectaculaire chute de François Fillon avec Antoine Marette.
François Fillon semblait avoir un boulevard devant lui. L'outsider de la primaire de droite était le favori de cette présidentielle. Jusqu'à cet article du Canard enchaîné le 25 janvier 2017, 3 mois avant le premier tour, l'hebdomadaire satirique révèle que Pénélope Fillon a été employée comme assistante parlementaire de son mari et comme conseillère littéraire à la revue des Deux Mondes, tout en mettant en doute la réalité du travail accompli. C'est le début d'une longue chute pour le candidat de la droite. Longue, car François Fillon résiste. Le lendemain, aux 20h de TF1, il réplique avec cette phrase devenue culte.
Il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est si mon honneur était atteint, si j'étais mis en examen.
Le dimanche suivant, à la Villette, devant 15 000 militants, il met en scène son couple et il durcit le ton.
Je veux dire à Pénélope que je l'aime et que je ne pardonnerai jamais à ceux qui ont choisi de nous jeter au loup.
Mais semaine après semaine, la liste des articles mettant en cause François Fillon s'allonge et les intentions de vote en sa faveur accusent une forte baisse. Le 1er mars, il annonce sa mise en examen, mais il maintient sa candidature, malgré les doutes de moins en moins discrets dans son camp. 4 jours plus tard, lors d'un meeting au Trocadéro, il s'obstine.
Il pense que je suis seul. Ils veulent que je sois seul. Est-ce que nous sommes seuls ?
François Fillon ira jusqu'au bout, malgré sa mise en examen. Il finit la course en 3e position, derrière Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, la droite parlementaire est absente du second tour de la présidentielle.
L'Assemblée nationale a ajouté hier quelques objectifs symboliques à la réforme des retraites. La garantie d'un nouveau régime, d'un niveau de vie digne pour les retraités notamment. Il s'inscrit dans l'article 1, article que les députés sont toujours en train d'examiner. La garantie donc d'un niveau de vie digne. Discussion au ralenti à l'Assemblée et vif débat encore en fin de journée hier autour de l'étude d'impact accompagnant cette réforme. autour aussi d'un possible recours au 49-3 pour faire passer le texte. La situation épidémique n'a pas évolué en France face au coronavirus, mais 70 hôpitaux supplémentaires vont être activés pour faire face à une éventuelle propagation de ce virus. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, souhaite ainsi qu'au moins un établissement par département en métropole soit prêt à accueillir d'éventuels malades. Tout cela en France, alors qu'en Chine, le bilan dépasse désormais les 2590 morts et que le président Xi Jinping reconnaissait hier des lacunes dans la réponse à l'épidémie. La Corée du Sud, plus important foyer de l'épidémie en dehors de la Chine, indique par ailleurs ce matin 161 nouvelles contaminations sur son sol, un bilan de 7 morts. 3 morts également en Italie, où 11 villes du nord du pays sont mises en quarantaine depuis ce week-end. Nous irons d'ailleurs en Italie, près de Milan, dans le journal de 7 heures. Avant cela, à 6h35 sur France Culture, allons en Inde où arrive ce matin Donald Trump pour une visite d'État de 2 jours. Le président américain la commence dans la région du Gujarat, dans le nord-ouest de l'Inde. Un État qui a été dirigé par le premier ministre indien Narendra Modi pendant 13 ans. Ce dernier prépare donc une réception exceptionnelle ce matin. Bain de foule, parade et spectacle dans un stade flambant neuf. Sébastien Farcy.
La ville d'Ahmedabad accueille le président américain avec les honneurs d'un Maharaja. 3000 artistes présentent un spectacle dans le plus grand stade de cricket du monde, inauguré pour l'occasion devant 110 000 personnes. Avant cela, une parade de 28 gigantesques tableaux sera présentée sur plusieurs kilomètres, réplique du spectacle de la fête nationale indienne. Narendra Modi adore en fait ces événements hors du commun, comme l'explique Nilanjan Mukhopadhyay, biographe du premier ministre.
Monsieur Modi est un fantastique organisateur d'événements grandioses. Il l'a fait dernièrement à Houston et plutôt au Madison Square Garden de New York ainsi qu'au stade de Wembley à Londres. Il le fait encore plus avec le président américain car les Indiens admirent les Américains et Monsieur Modi, en se montrant proche de lui, veut apparaître comme celui qui rend sa fierté au peuple indien. Monsieur Modi pense que l'excitation provoquée par ces spectacles va l'aider à résoudre les problèmes non réglés. Or, certains pourraient plutôt se demander si c'est raisonnable pour une économie en stagnation de dépenser autant d'argent dans la venue d'un dirigeant étranger.
Ces festivités devraient en effet coûter plusieurs millions d'euros, sans compter le fait que des centaines d'habitants des bidonvilles des bords de route ont été expulsés du jour au lendemain pour ne pas gêner la perspective de Donald Trump. Tout cela donc pour une visite de 3 heures du président américain dans cette région du Gujarat.
Une visite et une rencontre donc entre deux dirigeants protectionnistes. Cela ne devrait pas déboucher sur un accord commercial entre Washington et New Delhi. L'armée israélienne a revendiqué cette nuit une série de frappes aériennes contre des positions du djihad islamique en Syrie, près de Damas. Une réponse à un barrage de roquettes tiré un peu plus tôt par ce groupe islamiste armé depuis Gaza. Cela avait entraîné hier la fermeture d'écoles dans le sud d'Israël. La principale session annuelle du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, s'ouvre aujourd'hui à Genève. Cette instance a pour mission, rappelons-le, de protéger et de promouvoir des droits humains dans le monde entier. Ces droits, pourtant, n'ont jamais été aussi malmenés. Et l'ONU semble même avoir abandonné ce combat, Franck Madvon.
Aujourd'hui, dit un diplomate, il n'y a plus de honte. Le mépris des droits de l'homme est devenu un sport mondial. Et l'ONU ne fournit plus aucun effort pour les défendre. Les ONG dénoncent la passivité du secrétaire général Antonio Guterres. Elle plaçait en lui beaucoup d'espoir. L'ancien premier ministre portugais allait se battre pour les valeurs européennes, aucun doute. Mais non, pas un mot, par exemple, pour dénoncer la répression des musulmans ouïghours. Pourquoi ? Parce que Pékin est trop sensible sur la question. Et la Chine est désormais omniprésente à l'ONU. Elle y envoie ses meilleurs éléments, place ses hommes au poste clé et comble le vide laissé par les États-Unis. L'administration Trump ignore le multilatéralisme et a même claqué la porte du Conseil des droits de l'homme. La France, elle, est bien seule. Elle s'appuie sur ses alliés traditionnels, l'Allemagne, le Canada. Jean-Yves Le Drian se rendra à Genève aujourd'hui. Il y défendra notamment la candidature de la France au Conseil. Mais les droits de l'homme ne sont pas sa priorité. Et comment être crédible quand des pays montrent Paris du doigt et se font un plaisir de condamner les violences policières en France.
C'était Franck Madvon pour France Culture. Le temps connaîtra peu de changements ce lundi en France métropolitaine, avec de la grisaille sur le nord, des pluies même près des frontières belges et du soleil sur le sud. Côté température, comptez ce matin 8 degrés à Strasbourg et à Bordeaux, 10 à Lille et Lyon, 12 degrés à Paris et 15 degrés dans la matinée à Marseille.